Lem Sport.
Lem, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bienvenue dans l'EM, où nous continuons notre série d'émissions avec la Mutualité française de Bretagne. Il sera question de la prévention des chutes et plus largement, nous évoquerons la question du troisième âge et du maintien au domicile. Pour cela, nous recevons plusieurs professions et corps de métier dans l'accompagnement au quotidien. On parlera activité physique et troisième âge aujourd'hui et nous serons avec Fabrice Leport où nous aborderons la question de l'activité physique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous prenons rendez-vous avec Élodie Brenne, chargée de prévention à la Mutualité française de Bretagne. Élodie nous présente les enjeux autour de la prévention des chutes. Nous sommes avec Élodie Brenne, chargée de prévention à la Mutualité française de Bretagne. Nous allons réaliser ensemble une série d'émissions. Quels vont être le sujet de ces émissions ?
Alors, c'est celui du maintien de l'autonomie des personnes âgées et de la prévention des chutes. Donc, pour situer un petit peu la Mutualité française Bretagne, en fait, elle fédère plus de 160 mutuelles. Et en fait, ça représente un Breton sur deux. Donc, elle milite pour le maintien d'une protection sociale et solidaire, mais aussi sur l'accès à la santé pour tous. Donc on a des actions de prévention un petit peu partout sur le territoire. Le but, c'est vraiment de rendre les Bretons acteurs de leur santé en adoptant des comportements d'amélioration et de protection de leur santé.
Comment et pourquoi les mutualités françaises de Bretagne ont-elles décidé d'investir cette question des chutes ?
Alors, pour donner quelques chiffres, en 2030, il y aura un Breton sur trois qui aura plus de 60 ans ou plus, contre 1 sur 4 en 2008. Donc le vieillissement, c'est vraiment un enjeu majeur pour les années à venir. On sait également que tout ce qui est chute chez les sujets âgés, c'est une question qui est fréquente, vraiment quelque chose qui arrive assez souvent, sachant qu'une personne sur trois de plus de 65 ans, va faire une chute au cours de l'année. Et puis, il y a aussi les conséquences des chutes, en fait, qui peuvent être physiques, psychologiques ou sociales, plus ou moins graves en fonction de la personne, et qui peut avoir des répercussions sur l'entourage. Donc, on peut dire que cette chute, elle est multifactorielle. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on peut agir sur certains facteurs, notamment sur tout ce qui est l'aménagement. On ne pense pas forcément, mais c'est vrai qu'un aménagement de la pièce à vivre peut être très important. Tout ce qui est aussi alimentation, faire des bilans de santé. Donc c'est pour ça qu'on fait de la prévention, c'est pour éviter ces chutes des personnes âgées.
Alors nous allons faire une série d'émissions avec les mutualités françaises de Bretagne. Au nombre de trois, quels vont être les axes de prévention que l'on va aborder dans ces émissions ?
Alors, autour de ces trois émissions, en fait, on va aborder différentes thématiques, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement du logement. Comment aussi bien s'alimenter, c'est vraiment quelque chose de très important. Beaucoup de personnes âgées sont dénutries. Or, en fait, il y a une nutrition qui est très spécifique à cet âge-là. Et après, on va parler aussi de l'activité physique, donc activité physique adaptée à son âge. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on ne peut pas bouger. Bien au contraire, il y a des choses qui sont très adaptées au quotidien et c'est très important de rester en mouvement.
On était avec Élodie Brenne de la Mutualité française de Bretagne. Alors, histoire de se mettre dans la thématique de manière progressive, la scénette du jour proposée par la Mutualité française nous propose d'entendre une petite histoire inspirée du quotidien, celle vécue par Juliette où se pose maintenant la question du maintien au domicile.
Je ne pensais pas que c'est la meilleure solution. Non seulement elle tombe, mais elle perd la mémoire. Un jour ou l'autre, ça va mal finir. Moi, en maison de retraite, elle sera surveillée. C'est pour son bien que je dis ça.
J'ai bien compris. Mais rassurez-vous, on a fait des tests de mémoire. De ce côté-là, tout va bien.
Alors, qu'est-ce qu'elle a, docteur ? C'est grave ?
Non. Mais une chute est un signe qui doit nous alerter. À cet âge-là, on tombe rarement par hasard. On va vérifier l'audition, la vision, l'équilibre, l'alimentation aussi. Les personnes âgées manquent souvent de protéines, de laitage. Elles ne boivent pas assez.
Et elle ne fait aucun exercice. Je lui ai dit de faire de l'exercice. Elle n'écoute rien.
C'est aussi un problème. Elle ne marche pas assez.
Ben depuis qu'elle a son aide à domicile, elle ne va plus faire ses courses, donc elle ne marche plus.
Elle voit du monde, elle a des visites.
Bien sûr, sa sœur, ses voisines. J'ai même voulu lui offrir un chien, elle n'en a pas voulu. J'ai dû le ramener.
Moi, je crois qu'elle se sent seule depuis la mort de mon père. Elle ne va plus au club, elle m'en parle pas. Mais j'ai l'impression qu'elle s'ennuie.
C'est une impression, Nicole. T'as bien quelqu'un de fort. Et puis justement, en maison de retraite, vous trouverez des amis, des activités.
Vous croyez, docteur ? Moi, je ne sais plus.
Écoutez, demain, je la verrai avant son départ. Puis, on pourrait en discuter tous ensemble. Il n'y a rien qui presse.
Merci, docteur.
Nous sommes de retour en studio avec notre invité Fabrice Leport, directeur de l'association Défi Santé Nutrition. Bonjour.
Bonjour, bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous.
Alors, vous êtes également aussi enseignant en activité physique, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Et ben, la semaine dernière, nous étions avec Marine Mialevitch, qui est diététicienne au sein de Défi Santé Nutrition. Et bien justement, on peut peut-être expliquer aux auditeurs qu'est-ce que Défi Santé Nutrition ?
Alors, Défi Santé Nutrition, c'est une association qui est basée à Brest, qui a été créée en 2003 et dont l'objet, c'est réellement la prévention autour de la nutrition santé. Donc, en nutrition santé, on va parler à la fois alimentation, mais également activité physique. Donc, c'est une association classique avec un conseil d'administration dont le président est cardiologue. Donc, on travaille beaucoup avec des médecins aussi autour de nous, des professeurs universitaires. Et l'idée, après, ben nous, en tant que salariés, donc on est 6, donc moi, en tant que directeur et enseignant en activité physique adaptée, un autre collègue aussi, donc on est 2 éducateurs sportifs plus, on va dire, et 4 diététiciennes nutritionnistes. Et donc, à chaque fois, on fait des programmes et le parallèle entre l'alimentation et l'activité physique en fonction des différents publics cibles qu'on veut toucher. Donc ça va de la personne femme enceinte, hein, j'allais même dire, je travaillais en crèche hier, mais du coup, même les femmes enceintes aussi, il y a de la prévention à faire avec elles. Quand je parle femme enceinte, c'est aussi le cocon familial, hein, des fois c'est aussi le papa qui est bien, bien impliqué. Jusqu'aux personnes âgées et même des personnes en résidence ou en EHPAD. Donc on fait des programmes comme ça un peu partout en Bretagne et principalement dans le Finistère.
Alors pour revenir à la thématique du jour, le maintien au domicile et la prévention des chutes, la petite histoire de Juliette qu'on a écoutée il y a quelques instants, qu'est-ce que cela vous a évoqué ?
Ça m'a fait sourire déjà au départ parce que c'est beaucoup ce qu'on ressent et ce qu'on entend de la part des proches souvent qui veulent essayer de motiver la personne à reprendre une activité mais qui s'y prend pas forcément de la bonne façon. Quand on est proche d'une personne, on est rarement meilleur conseiller. Donc, bon, dans un premier temps, ça m'a fait sourire, évidemment. Après, il était de très bons conseils, le monsieur, à vouloir faire en sorte qu'elle bouge un petit peu plus, de limiter sa sédentarité, de faire en sorte que, y a des choses qui se mettent en place aussi pour que, il n'y ait pas ce cercle de déconditionnement, parce que ça peut aller très, très vite. Et puis, le déconditionnement, la sédentarité va faire que.
Qu'est-ce qu'on entend par déconditionnement ? C'est le déconditionnement à l'effort et ses conséquences ?
Oui, tout à fait. C'est, du coup, la sédentarité en tant que. Elle va amener des conséquences assez catastrophiques, notamment au niveau sensoriel, mais au niveau musculaire aussi. On sait qu'on va avoir la fonte de masse musculaire, donc j'allais dire la sarcopénie pour la nommer. Et c'est vrai que c'est quelque chose à entretenir tous les jours, de façon quotidienne. Et voilà, après on touche l'identité et l'intimité propre de la personne aussi par rapport à ses chutes, par rapport à sa baisse de forme. Donc là, on parle spécifiquement d'une femme, mais chez les hommes, c'est presque pire, on va dire, parce qu'il y a aussi ce côté un petit peu macho que je pense aussi espérer ne pas avoir dans quelques années, mais c'est possible qu'on va se mettre... Non, moi, j'ai aucun problème. Et chez beaucoup d'hommes passés un certain âge, il y a autant de chutes, mais pour autant, ils ne vont pas le dire. Et ils vont essayer de le masquer le plus possible aussi. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi les stratégies d'évitement, dire non, mais moi ça va, j'ai chuté que 4-5 fois dans l'année. Ouais, enfin, 4-5 fois, ça commence déjà à être assez catastrophique.
Sachant que les conséquences peuvent être assez lourdes.
Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est vrai qu'on va distinguer aussi des différentes chutes. Donc, forcément, les chutes graves, ça va être si hospitalisation ou intervention médicale. Et dans ces cas-là, voilà, il y aura forcément un peu plus de suivi. Mais pour intervenir sur des programmes de prévention des chutes, régulièrement, quand on demande aux personnes combien de chutes elles ont fait dans l'année, parce que c'est forcément une des questions qui arrive en premier lieu pour commencer à vraiment avoir un diagnostic et évaluer un petit peu ce qu'on va faire avec la personne, elles vont minimiser ou elles vont nous dire carrément que je préfère pas le dire parce que comme ça ma fille elle va pas être au courant et comme ça elle va pas me pousser à...
Le déni.
Exactement.
Mettre de la poussière sous le tapis.
Un petit peu quand même, ouais. Donc l'idée de nos interventions, c'est certainement pas de dramatiser, mais en tout cas d'avoir une vraie vision objective aussi de son état physique, de santé. Et puis après, comme on l'a entendu aussi avec les autres intervenants, c'est multifactoriel. Donc ça, on va pas uniquement baser nos interventions que sur du sensoriel ou que sur l'équilibre, mais c'est vraiment plein de dynamiques à créer pour que la personne elle se sente bien, bien accompagnée et se sentir aussi progresser tout en étant dans un cercle de confiance où elle n'a pas peur trop de chuter. Voilà.
Ouais, parce qu'il est possible de faire de l'activité physique à tout âge et en particulier... Lorsqu'il est question de prévenir les chutes, il y a des choses à faire, il y a des...
Ouais, au contraire, ouais. Alors, du coup, on va reprendre les recommandations OMS, ANSES, assez spécifiques. C'est que, de toute façon, l'activité physique, on devrait tous en faire depuis qu'on est né, voilà, de façon quotidienne et le plus régulièrement possible. Ce que je dis souvent, moi, c'est comme... Le brossage de dents, quoi. Je me brosse pas les dents le dimanche pendant 2 heures. Voilà. Brossage de dents, c'est tous les jours. Un petit peu tous les jours. Et puis, ça a des vertus à la fois hormonales. Mais on sait que, du coup, une activité physique modérée d'une demi-heure chez les personnes âgées tous les jours, ça va avoir un bienfait pendant 24 à 48 heures aussi, ne serait-ce que psychologiquement. Donc, conserver toujours ce rythme d'activité physique au quotidien, ne serait-ce que par la marche, ça permet aussi d'aller vers et avoir un peu plus de liens sociaux. Donc, psychologiquement, socialement, ça va un peu mieux. Physiquement, du coup, on va travailler l'endurance, on va retravailler l'équilibre, on va retravailler...
Qu'est-ce qui est la pratique la plus recommandée, c'est la marche ?
La pratique la plus recommandée, quand on n'est pas sur des programmes spécifiques, équilibre et qu'on n'a pas de problème, c'est la marche. De toute façon, le meilleur médicament, c'est la marche. C'est reconnu quand même depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup, beaucoup de publications là-dessus. Et pour autant, on a des difficultés à faire en sorte que les gens marchent. Donc, tout notre travail, souvent, sur des programmes, c'est vraiment d'accompagner les gens pour leur faire prendre conscience du plaisir que ça peut avoir aussi. L'idée de plaisir, c'est assez fondamental dans cet accompagnement-là, c'est qu'on va travailler la motivation, mais travailler la motivation, s'il n'y a pas le plaisir et l'expérience vécue comme valorisante aussi, on sait bien qu'à la fin de notre programme, il y a des chances qu'il y ait l'autonomisation des personnes seules après chez elles pour faire leur activité, ça, c'est assez dérisoire, quoi.
Ouais, vous demandez pas à tout le monde de devenir des Robert Marchand.
Non.
Je fais référence à ce monsieur, ouais. à ce centenaire qui est décédé il y a pas très longtemps, mais qui a quand même eu le mérite d'être le recordman du monde du 100 km dans la catégorie plus de 100 ans.
Ouais.
Voilà, mais c'est pas le but. C'est reprendre progressivement.
Exactement, ouais. Non, toutes nos activités, c'est vraiment pas le but. On les prépare pas non plus à Paris 2024. Hein. On peut s'en inspirer, hein, ça peut être une source de motivation pour certains, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une vraie évaluation objective avec elle, de faire un programme individualisé aussi pour qu'après on arrive à des objectifs cohérents et pertinents individuellement pour que les personnes sachent exactement où elles en sont et comment elles vont pouvoir progresser quel que soit leur âge. Il y a des personnes de 80-85 ans qui se sentent faibles parce qu'en effet, des fois, dénutris, faibles aussi parce que des troubles du sommeil, faibles aussi parce que un peu de dépression qui vient avec l'âge et quand on se sent aussi perdre de ses capacités physiques. Et ben, y a tout un aspect psychologique et un encadrement à avoir qui est super important. Et puis le fait de vivre des expériences où on va aussi être là pour valoriser, dire que c'est bien de pouvoir travailler aussi, quelle que soit leur capacité, que ce soit assis ou debout, mais avec des supports pour travailler l'équilibre. Et puis après, au quotidien, c'est des choses. Le réentraînement à l'effort, ouais, il n'a pas d'âge, en fait. Donc, réentraînement à l'équilibre et un petit peu de renforcement musculaire, voilà, ouais, ça permet quand même de reprendre un petit peu d'autonomie. Quoi.
L'équilibre, c'est quelque chose de particulier aussi. C'est quelque chose qui évolue avec l'âge.
Oui, c'est quelque chose qui évolue avec l'âge. Bah, déjà, du fait des pertes sensorielles, donc audition, vue... l'oreille interne aussi, du coup, qui va avoir... on va pas rentrer dans quelque chose de trop bio-physiologique, mais y a vraiment un aspect aussi où quand il y a un...
On se dégrade petit à petit.
Exactement, de toute façon, tous, hein, moi aussi. Et l'idée, c'est de faire en sorte de ralentir cette dégradation aussi, et puis de faire en sorte que les personnes puissent... vivent le plus longtemps possible avec leurs capacités, où elles en sont aussi conscientes, et de voir qu'elles peuvent progresser et reprendre confiance en elles aussi, en leur déplacement, en leur vie quotidienne. C'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye d'axer vraiment un travail assez fondamental par la marche, mais aussi sur leur rapport à leur environnement. Qui est très, très intéressant. Donc, en fonction des communes sur lesquelles on intervient, on va aller à l'extérieur. Typiquement, on va faire la poste, le commerce de proximité, la boulangerie, et puis retour à la salle de sport ou le centre social où on est, pour voir un petit peu les parcours au quotidien, les difficultés qu'elles peuvent avoir. Et on va travailler avec elles, justement, sur cette reprise d'autonomie pour qu'elles se sentent de plus en plus à l'aise, quoi.
Parce que y a ce côté autonomie, même avant la reprise de l'activité, avant la chute. Mais une fois que la chute est arrivée, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est le manque de confiance qui s'instaure, enfin le doute par rapport à son propre environnement. Comment vous travaillez là-dessus ?
Ouais, complètement. Alors du coup, la peur de la chute, c'est quelque chose de récurrent. C'est des choses qui reviennent en permanence. Faut pas minimiser. Faut vraiment prendre le temps aussi de recueillir la parole des personnes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont minimiser, ignorer, ou « Ah non, moi j'ai aucun problème ». Bon, alors que quand on fait un test assez simple sur un pied ou autre, on se rend compte que potentiellement, il y a des forts risques à faire de multiples chutes dans l'année. Donc, tout simplement, je pense juste, là par exemple, sur un exercice de marche sur une ligne droite, voilà, on va essayer de faire en sorte que déjà autour ce soit sécurisé, voilà, pas de choses qui bloquent ou autre. Et petit à petit, sur cette marche sur une ligne, on va leur demander à la radio on va pas voir, mais de se tenir un peu plus droit, de regarder un peu plus vers l'horizon. Et petit à petit, voilà, avec des répétitions, on arrive même sur une séance à faire en sorte que les personnes, quasiment sur 10 mètres, ferment les yeux et arrivent au bout de leur ligne de 10 mètres. Sans problème, à se caler. Elles sont généralement très surprises de ce qu'elles sont encore capables de faire. Donc c'est tout l'accompagnement en leur disant on va y aller progressivement, et c'est ça que c'est une activité physique adaptée, quoi. Donc, la progressivité, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental, où on va devoir individualiser et pas forcément faire les mêmes exercices pour tout le monde, parce que ça, on va louper la moitié justement de la reprise de confiance. Donc, faut pas faire d'exercices que les personnes vont maîtriser tout de suite, parce que là, du coup, il y aura plus trop de motivation non plus. Mais on part de ça pour qu'elles aient vraiment confiance, ou même des exercices sur chaise, avant de repartir sur du travail même statique sur un pied ou autre. Et on a des très très bons retours.
Parce que la chute aussi, en général, dans les familles, c'est souvent l'avertissement, une nouvelle étape dans l'accompagnement. C'est quelque chose qui marque en général.
Ouais.
C'est bête à dire, mais quand papy et mamie se cassent la figure et qu'il y a une conséquence, là on se dit on rentre dans une nouvelle étape.
Ouais, complètement.
Et comment justement après, est-ce que vous travaillez sur l'accompagnement des familles pour est-ce que c'est possible de dédramatiser cet instant?
Oui, après comme on entendait dans la série audio juste avant, c'est vrai que la famille elle a un vrai rôle d'accompagnement, et puis forcément c'est souvent les contraintes qui viennent en premier, c'est-à-dire que il faut que l'aidant proche familial soit à peu près disponible pour éviter qu'il y ait le moindre problème avec elle et puis avec la personne qui va chuter. Mais l'idée, c'est en effet de sensibiliser, informer le plus possible pour aussi dédramatiser, dire que ça peut arriver, réussir aussi à donner des outils à ces familles-là pour pouvoir évaluer. Parce que du coup, pour eux, au niveau de l'affectif, d'avoir son papa ou sa maman qui chute une fois avec potentiellement une hospitalisation, ça peut avoir en effet aussi des conséquences émotionnelles assez, assez lourdes. Mais pour autant, des fois, ils ont un peu de tendance aussi à surévaluer et dire que mon parent n'est plus en capacité de s'occuper de lui-même.
Il doit partir en maison de retraite.
Ouais, c'est ça. Alors que généralement,
Le médecin dans le scénario proposait entre guillemets un statu quo quoi de
c'est ça ouais de il y a toujours des étapes avant même l'hospitalisation. Du coup j'allais vraiment dans le cas extrême, mais il y a forcément des étapes là, l'auxiliaire de vie qui vient ponctuellement aussi pour les repas, il y a des aides familiales aussi forcément. Et puis après, nous, on croit beaucoup, mais parce que c'est notre credo dans l'association, d'informer, de former les gens sur de la prévention. Ça permet aussi d'anticiper un petit peu plus et de se dire, finalement, là, on voit que la personne a fait 2 chutes dans l'année. Si on ne met pas un programme spécifique autour de son équilibre ou en activité physique ou sur l'alimentation ou autre pour améliorer sa santé et son autonomie, sa qualité de vie, dans un an, si ça continue comme ça, on va devoir vraiment prendre des dispositions pour pouvoir potentiellement placer cette personne-là en EHPAD ou en résidence senior. Et les politiques actuelles sont pas axées sur le fait d'amener non plus les gens vers les EHPAD non plus, étant donné que les places sont limitées, ça a un coût énorme. Les politiques du ministère de la Santé, ça va être beaucoup plus autour de la prévention et de faire en sorte que les personnes restent aussi à domicile le plus longtemps possible en bonne santé. Donc les dispositifs sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas parfaits, mais on voit bien qu'on a de plus en plus de demandes sur nos types de programmes, par exemple d'accompagnement spécifique en activité physique, mais également en alimentation. Et c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas faire nous-mêmes petite association. C'est sûr que c'est l'ensemble de tous les partenaires, conseils départementaux, ARS et autres, qui sont sollicités sur cette question-là, et c'est un vrai partage aussi de compétences. On n'est pas tous compétents dans tous ces domaines-là. Sur l'aménagement de la maison, nous, on n'est pas compétents, par exemple. On va juste dire de faire attention à des tapis ou faire des choses comme ça, mais ce n'est pas notre domaine, en tout cas au niveau de l'association. Par contre, tout ce qui est en effet alimentation, dénutrition et activité physique, c'est vraiment notre domaine, et c'est pourquoi on nous appelle généralement en tant que prestataire sur pas mal de communes du Finistère.
Qui sont les acteurs qui font appel à vous? C'est les communes? Ça peut être les CCAS?
Ça peut être les CCAS, ça peut être les communes, ça peut être par exemple le conseil départemental ou la conférence des financeurs sur des appels à projets et des territoires où il n'y a pas grand chose d'activités physiques adaptées qui sont proposées. Donc du coup, nous, on répond à ce besoin, et du coup on va forcément vers les territoires les plus fragiles où il y a le moins de possibilités d'activité pour ces personnes. Et l'idée globale après nos interventions, c'est généralement nous on intervient sur 12 semaines et derrière c'est de réussir à pérenniser, alors soit par la formation d'éducateurs sportifs, soit par l'accompagnement d'associations locales, spécifiquement je pense au Pilates, Gym Douce, de la danse bretonne, pour pouvoir continuer à accompagner aussi et continuer à faire en sorte qu'il y ait du sport santé au quotidien le plus proche des gens. Voilà. C'est vrai que quand on dit aux gens qu'on vient de Brest, ils savent bien que le programme il va être d'une certaine durée, qu'on ne va pas revenir tout le temps. Mais par contre, on s'engage aussi à essayer de faire en sorte de trouver des solutions de proximité pour que y ait un vrai accompagnement global sur le long terme après.
Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Leport, directeur de Défi Santé Nutrition. Petite dernière question. La semaine dernière, avec Marine, on avait découvert finalement plein de clichés qu'on a essayé de battre en brèche. Là, s'il y a un cliché sur l'activité physique et le troisième âge sur lequel il faut se bagarrer au quotidien, pour vous, c'est quoi ?
Ah, c'est que, oh là là, mais ça fatigue beaucoup trop, l'activité physique. Vu ton âge, il faudrait que tu restes dans ton canapé. Voilà, c'est ça le gros cliché. Moi, je trouve que la sédentarité et le déconditionnement, c'est vraiment assez dramatique. Et bon, on voit bien, de toute façon, les personnes qui continuent à pratiquer une activité physique, dans leur qualité de vie, leur lien social, et globalement, même au niveau familial et au niveau du stress aussi, c'est les personnes qui vont le mieux, quoi. Donc, faites du sport.
Le message est passé. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.